France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il faut bien admettre que rien n'a été simple ces dernières années pour la culture. Il y a d'abord eu 2 ans de Covid, évidemment, des salles de spectacle vidées, des cinémas fermés, alors qu'on pouvait imaginer que débarrassé enfin du masque et du pass sanitaire, on allait pouvoir repartir sur les chapeaux de roue. Eh bien non, bim, la guerre en Ukraine. Et c'est presque une règle mathématique. En fait, chaque gros événement d'actualité un peu anxiogène fait que les spectateurs que nous sommes ont tendance à se replier sur nous-mêmes et chez nous surtout. Mais justement, avec toutes ces turbulences, on aurait pu imaginer que la campagne électorale se penche au moins un peu sur la culture et rien, sinon pas grand-chose, par les pouvoirs d'achat, c'est quand même aussi parler d'accès à la culture, mais pas vraiment parler énergie aussi, pourquoi pas, tout le monde ne va pas au cinéma ou au théâtre à pied. La culture, soyons clairs, n'a jamais été au cœur des campagnes, mais cette fois, derrière quand même quelques éléments de programme évidemment et des propositions, pas de sortie culture, pas de rencontre culture pour aucun des candidats. Il y a un autre phénomène dans cette campagne, toutes les élections précédentes, vous avez vu des artistes, des chanteurs, des acteurs derrière les candidats, déjà en 2017, les artistes étaient très très clairsemés, en 2012, ils étaient encore là en 2007, on se souvient de cette presque guerre des podiums, souvenez-vous du soir de la victoire de Nicolas Sarkozy ou du Stade Charletti de Ségolène Royal. Cette fois, c'est comme si aucun artiste n'avait trouvé sa place, ni voulu prendre le risque, à l'heure du bashing aussi en règle sur les réseaux sociaux, de donner son soutien à un quelconque candidat. Bref, la campagne n'est pas culture et la culture pour le temps ne va pas très bien. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
On commence avec vous, André. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute, André, allez-y.
Ben, écoutez, simplement, il y a des gens qui sont surpris que la culture n'ait pas une place première dans cette campagne, ou même quasiment pas de place du tout. Ben, d'abord, dans un pays où il y a eu la Covid, où il y a la guerre, pas tellement loin de la France, il y a que la Pologne et l'Allemagne qui nous séparent de l'Ukraine, où l'inflation redémarre à un niveau qu'elle n'avait pas connu depuis 25 ou 30 ans, il est assez logique que les gens aient d'autres préoccupations. Et à ça, je rajouterais qu'il n'y a pas un homme politique marquant sur le plan culturel. En d'autres temps, il y avait eu André Malraux, après il y avait eu Duhamel et après il y a eu Jack Lang, 3 individus très différents, mais qui étaient marquants sur le plan culturel et politique. Il n'y a évidemment rien de ce genre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la culture, c'est sans doute un peu la cerise sur le gâteau, un peu réservée, je ne vais pas dire aux riches, ça serait trop caricatural, mais disons que ce n'est pas la préoccupation des gens qui ont froid chez eux et qui ont du mal à remplir leur assiette. Ça, et si je peux permettre de terminer par une toute petite question humoristique.
Ah bah je vous en prie.
Jacques Chazot avait inventé le personnage des Marie Chantal. Eh bien, j'ai l'impression que la culture, c'est un peu Marie Chantal. Vous savez, Marie Chantal sort son hôtel particulier, elle voit un brave homme qui tend la main, « Madame, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. » Et Marie Chantal lui répond, « Forcez-vous, mon brave. Forcez-vous, mon brave. » C'était Jacques Chazot, ça.
Voilà, allez, je m'excuse de vous dire ça, André, mais elle est très, très marquée générationnellement. Votre blague et votre référence à Chazot, vous remercie beaucoup pour cette jolie entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Michèle Alberstadt est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de la société de production et de distribution de cinéma ARP Sélection. Nicolas Dubourg est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du théâtre La Vignette à Montpellier, président du syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Nous avons Jérôme Tréorel également, bonsoir monsieur Tréorel.
Bonsoir.
Directeur général du Festival des Vieilles Charrues, et puis Stéphane Capron, journaliste à France Inter au service culture. Et là également, j'aimerais vous demander votre sentiment à tous sur ce que dit notre ami André, au-delà de la blague sur Jacques Chazot. Michèle Alberstadt, il a raison sur un point, c'est vrai que dès que l'actualité internationale ou l'actualité tout court tombe sur quelque chose d'énorme, que ce soit chez nous ou que ce soit à l'extérieur, vous êtes les premiers à trinquer. C'est presque une règle mathématique, je le disais en introduction.
Oui, c'est assez logique en même temps. Mais j'étais frappé de voir que le lendemain du début de la guerre en Ukraine, il y a eu plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui montraient tout ce qui est tourné à Kiev, par exemple. D'un seul coup, vous voyez tous les clips, tous les films, tous les... Donc, tout de suite, la culture réagit et montre à quel point elle participe à ce qui se passe. Et vous voyez bien, vous avez bien vu, même à France Inter, il y a 8 jours, le concert qui a été fait en faveur de l'Ukraine. Enfin, la culture n'est pas un monde à part auquel on s'adresse quand tout va bien dans le pays. La culture fait partie du tissu du pays, tout simplement. Alors, bien sûr que, peut-être qu'à la télé, quand il y a la guerre, on regarde plus les chaînes infos que les concerts ou les films, mais c'est normal. C'est pas pour ça que la culture est exclue de la vie quotidienne des gens.
Il y a un effet anxiogène, vous diriez, Nicolas Dubourg, qui, en plus du reste, parce qu'on va venir au reste, est un peu la goutte d'eau, en quelque sorte, qui a fait déborder ce vase-là.
Non, moi je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. André parlait de André Malraux tout à l'heure en parlant des politiques culturelles. Il devrait aussi se rappeler le contexte dans lequel ces politiques culturelles sont nées, c'est-à-dire l'après-guerre. Et c'était un contexte qui était particulièrement anxiogène. On découvrait l'horreur qui s'était déroulée dans les camps de concentration. On découvrait à quel point l'humanité était capable de faire œuvre de barbarie. Et quelle est la proposition des hommes politiques de cette époque-là ? C'est précisément de construire une politique culturelle, une politique éducative, une politique qui finalement, on a appelé ça une politique humaniste, qui était capable d'inventer un récit qui rassemble le récit de l'Europe, le récit finalement de quelque chose qui embarque toute une génération, et on voit comment au cours des années 60-70, ça a aussi servi de la dynamique. Donc moi je réfute cette question-là. Par contre, là où je suis d'accord avec son analyse, c'est que on manque d'hommes politiques qui sont aujourd'hui capables de porter
ce récit. On manque d'incarnation en fait, c'est ça.
D'incarnation, et on a surtout des hommes politiques qui suivent. C'est-à-dire que c'est pas tellement les gens qui auraient envie qu'on arrête de parler de culture. Moi, je pense que les hommes politiques sont là pour proposer les débats et pas uniquement pour les suivre et pas suivre le buzz.
Et c'est quoi notre part à nous, vous diriez, Jérôme Tréorel ? Alors vous, par exemple, aux Vieilles Charrues, parce qu'on aime bien aussi avoir quelques bonnes nouvelles, les Vieilles Charrues, ça, c'est plein, c'est rempli. Mais il y a un truc qui est intéressant aux Vieilles Charrues, vous avez des places qui tournent autour de 40 et quelques euros, parfois un peu plus, on est à peu près dans ces eaux-là, et c'est ça peut-être aussi qui joue cette fois, en sortie de Covid, en entrant dans une crise énergétique qu'on n'avait pour le coup pas prévue et pas vue arriver. Est-ce que ce qui vous sauve la mise, c'est aussi ça, en fait ? C'est cette accessibilité, au fond ?
Bah, ça en fait partie. Ça fait partie d'une des valeurs premières qu'on essaie de maintenir aux Vieilles Charrues depuis le démarrage. Et c'est vrai que ça fait quasi 10 ans maintenant qu'on est à un prix à partir de 44 euros. Alors ça paraît hallucinant aujourd'hui quand on regarde l'évolution des tarifs et qu'on a pu voir même sur la pré-crise. Je pense que les gens aujourd'hui sont regardants forcément à la dépense, surtout avec tous les impacts liés aux différentes crises, hein, la crise sanitaire, là l'impact que l'on vit des conséquences de la guerre qui est aux portes de l'Europe en Ukraine. Au quotidien, les gens font attention. Et puis il y a également aussi le fait que au-delà du tarif, c'est l'histoire qu'on veut raconter au public. C'est dans quelle aventure on veut les embarquer, un festival, une pièce de théâtre, enfin toute proposition artistique, c'est un partage des émotions, c'est vivre une expérience ensemble. Et on essaye effectivement aux Charrues de mettre les petits plats dans les grands. Cette année, on fêtera les 30 ans. C'est aussi un événement et un phénomène qui peut aussi booster l'envie des festivaliers de revivre un événement et ce grand rassemblement. Et après, pour rebondir par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, je pense que, et on l'a vu avec cette crise sanitaire, qu'il y avait une méconnaissance du secteur politique de manière générale, notamment du secteur du live, de la musique et des festivals en particulier, parce que c'est des festivals et des acteurs qui n'étaient pas soutenus par l'État, donc pas balisés du tout en termes de connaissances et de modèles économiques, et ils se sont rendus compte de l'importance de compagnies de théâtre, d'organisation de concerts et de festivals, de l'importance sur un territoire tant au niveau du dynamisme que de l'impact économique, social et culturel. Mais je pense que c'est encore trop peu, ou du moins pas assez connu par l'ensemble des candidats, et que c'est un point qui est déterminant pour aussi le bien-être des concitoyens.
Michel Halberstadt, on a aussi le sentiment, on l'a bien vu pendant le Covid, que notre consommation de la culture a complètement changé, en fait. Et c'est vrai qu'on s'est replié aussi sur nos canapés, sur les plateformes, etc. Si bien que peut-être également, et y compris aux yeux des pouvoirs publics, chacun consomme désormais de son côté, donc on a moins besoin de s'en occuper au sens large. Est-ce qu'on peut aller chercher une explication qui viendrait d'ici ?
D'abord, je voudrais dire que les festivals, c'est un monde à part.
Ouais, c'est vrai.
Et les festivals de cinéma, même en ce moment, moi, j'ai été au festival en janvier, c'était plein. Les festivals, c'est plein.
Alors pas tous, hein, parce que j'ai cru comprendre que Bourges, ouais, vous m'arrêterez si je me trompe, a beaucoup de mal à remplir en ce moment.
Donc, Bourges est vraiment très très inquiet. C'est le festival qui va bientôt commencer. Ouais. Là, ça commence le 19 avril. Et vraiment, du côté des organisateurs, ils vendent pas des billets. Enfin, ils se demandent vraiment ce qui se passe. Et ils ont l'impression de vivre la crise économique, notamment de plein fouet dans un bassin de population où la culture arrive en deuxième position, troisième, quatrième, cinquième position. La priorité, c'est de remplir le caddie. C'est pas d'acheter des billets pour la aller au concert.
Et alors, ce que vous disiez, Fabienne, c'est très vrai. D'abord, il y a eu le télétravail qui a fait qu'on est tous restés à la maison. Le Covid qui fait qu'on a peur de sortir. Il y a encore des gens qui ont peur. Ça continue à circuler. Tout le monde est plus ou moins malade. Et puis, bon, l'arrivée des plateformes que d'un seul coup, le Covid a installé, la crise a installé. Et c'est vrai que quand vous regardez les pages culturelles des journaux, et ben maintenant, les séries et les plateformes prennent autant de place que le cinéma. Le cinéma a perdu des pages en faveur des films et des séries qui passent sur les plateformes. Donc d'un seul coup, peut-être que oui, l'État se dit bon bah ça va, ils ont leur dose quoi.
C'est ça. Et parce que moi je me souviens très bien, et c'est vous, Michel, qui étiez là quand la première réouverture, parce que hélas ça a été refermé et puis voilà, la première réouverture, on s'est tous rués sur les salles de cinéma. Il y a eu vraiment un boom, il y a eu quelque chose et tout le monde, et vous la première disiez, les gens avaient cette appétence, ils avaient tellement envie, ça a été une telle frustration. Et puis pouf, c'est retombé comme ça. Et au moment où on a tout ouvert, on a l'impression qu'ils ne sont pas revenus du tout.
Exactement. En tout cas, c'est moins 40% dans les salles de cinéma.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme. Et en plus, les premiers à ne pas être revenus, c'est les assidus. C'est-à-dire ceux qui y allaient le plus souvent, ceux qui y allaient une fois par semaine. C'est ceux-là qui reviennent le moins. Alors, sans doute parce que c'est souvent ceux qui ont plus de 50 ans, qui du coup se sont équipés en plateforme, qu'ils n'avaient peut-être pas découvert avant, qu'ils ont découvert depuis. Et voilà, mais surtout quand vous les interrogez, ils vous disent pas « en ce moment, j'ai pas envie, c'est le Covid, il y a les masques » ou autre, ou l'argent. Ils vous disent « j'ai changé de style de vie, j'ai changé d'habitude, voilà, je fais autre chose ».
Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, c'est soit...
Ça veut dire qu'en ce moment, ils font autre chose.
S'adapte ou...
Alors, peut-être que ça reviendra. Je me souviens que j'ai regardé les vieux journaux quand la télé a démarré, on a dit « c'est la mort du cinéma », ça a mis 5 ans à se remettre. Alors bon, on n'en est pas à 5 ans, on n'en est qu'à 2 ans. Mais c'est clair que pour l'instant, ils ne reviennent pas.
Mais est-ce que ça veut dire, Nicolas Dubourg, qu'il aurait fallu anticiper sur cette difficulté de retour et que donc toutes les aides qui ont été mises en place parce qu'il y en a eu, au fond, on aurait dû y penser sur une période qui est plus longue, le temps de que la mécanique se remette en place. Or, on a considéré à un moment que, paf, on arrêtait les choses d'un coup. Alors, c'est pas le cas que de la culture, mais là, en l'occurrence, c'est ce qui nous préoccupe. Est-ce que vous vous dites, on aurait dû anticiper sur le fait que la reprise ne serait pas de manière aussi rapide?
Oui, alors ça, nous, c'est quelque chose sur lequel, que ce soit le Syndéa que je préside ou que ce soit d'autres syndicats, notamment de l'Union des syndicats du public, on a signalé ça dès le début de la crise au Premier ministre en disant, attention, on est dans un moment qui est très difficile puisque ça fait 20 ans qu'on vous alerte sur, une diminution des crédits et une diminution du soutien public, que ce soit celui de l'État ou que ce soit celui des collectivités territoriales, à la culture. Donc cette crise va nous mettre dans une difficulté qui va souligner la crise structurelle dans laquelle on était déjà. Et on avait dit, attention, 2 ans, on va être sur des aides qui seront purement liées à le court terme, mais il va falloir évidemment penser non seulement la relance sur les 2-3 prochaines années, et penser aussi des aides qui vont accompagner finalement ces changements d'habitude. Alors je tiens à dire qu'il y a quand même des différences entre ce qui concerne le cinéma et notamment le spectacle vivant. Nous, on observe là depuis quelques semaines un frémissement qui est assez encourageant. On n'est pas encore à se féliciter d'un retour plein en salle, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une mutation des publics. Des fois, les publics les plus âgés ont effectivement un peu quitté les salles, par crainte, je pense, du Covid, mais on a aussi vu apparaître depuis quelques semaines des publics beaucoup plus jeunes. Donc, nous, ce qu'on a demandé, on a organisé hier un débat avec des représentants des candidats, la plupart d'entre eux se sont engagés précisément dans cette logique de soutenir financièrement la culture en dotant de manière assez conséquente le ministère dans les prochaines années, et notamment dans cette perspective de dire on peut pas avoir fait tout cet effort pendant 2 ans pour laisser tomber aujourd'hui.
Michel Halberstadt.
Je pense qu'il ne suffit pas de rouvrir les salles pour que tout recommence. C'est pas quelque chose qu'on débranche et qu'on rebranche. Il faut inciter les gens à revenir. Il faut, notamment, je trouve que les exploitants, ils ont vraiment un énorme travail à faire par rapport au prix des salles, inventer d'autres manières de recevoir les gens, que ça coûte moins cher le matin, qu'il y ait des débats à la fin de certains films, à la fin de certaines séances. C'est-à-dire que maintenant, les gens vous disent, le cinéma, une place, ça coûte quasiment un mois d'abonnement sur une plateforme. Donc, moi, j'ai pas envie de me tromper quand je vois voir un film, du coup ils vont plus voir des machines évidentes que des films d'auteur et prennent plus de risques, quoi. À ce prix-là, ils se disent on va pas se tromper. Mmh. Et il faut réinventer le plaisir d'aller en salle, parce que pour l'instant, les gens vous disent je suis mieux assis chez moi j'ai pas de masque, j'ai le frigo à côté, et puis si la série me plaît pas, je peux en enchaîner sur une autre et j'ai pas dépensé 12 euros. Donc l'exploitant, il faut qu'il anime sa salle autrement, il faut qu'on ait des invités, il faut, enfin, vous voyez ce que j'ai, il faut que la salle vous apporte un truc que vous avez pas chez vous. Parce que le simple fait de dire on est plusieurs à voir un film, visiblement, ça suffit pas à ramener les gens.
Mais est-ce que ça veut dire que si eux, effectivement, doivent prendre, enfin, ne veulent pas prendre plus de risques, ça veut dire que vous non plus, en fait, ni producteur, ni distributeur, en vous disant, si on n'a pas, en gros, un blockbuster à adosser, à un film dont on sait qu'il fera moins d'entrées, on n'y va pas, en fait, parce qu'on sait que ça va pas marcher.
Bah, écoutez, nous, chez ARP, on fait du cinéma indépendant, des films d'auteurs étrangers, donc ça va, on va pas changer notre ADN, on va pas se mettre à faire des blockbusters, hein, c'est, chacun son truc, on essaye de temps en temps de faire des comédies si on y croit, mais c'est pas aussi simple. C'est tout un système. C'est-à-dire que on voit maintenant que le volume des productions va commencer à baisser, parce que pour produire, il faut avoir un distributeur, sinon vous ne pouvez pas aller voir les financiers. Et on est tous, c'est pas qu'on est plus frileux par rapport au sujet, c'est que moi je pense que ça rend exigeant, ce qui est plutôt bien. Du coup, il y aura peut-être moins de films et on va peut-être chercher des choses plus originales. Il y a plein de choses où maintenant vous les lisez, vous vous dites, ça franchement, une plateforme, ça suffit. Est-ce que c'est la peine d'aller au cinéma pour ça? Je pense qu'il y a une espèce aussi de pas de censure, mais une espèce de prioritarisation donnée à des sujets qui sont plus exigeants, plus originaux, plus du cinéma. Alors pour l'instant, je constate que auprès des chaînes qui financent les films, c'est pas encore ça leur réflexion, mais il va falloir qu'on y arrive, qu'on comprenne que bon, ben pour le cinéma, faut trouver des propositions plus originales, plus novatrices, plus radicales, mais c'est pas ça que les gens ont envie de voir en ce moment, clairement.
Et c'est peut-être ça aussi que ce qu'il y a derrière la tête des politiques, au fond, Nicolas Dubourg, laissons les salles, laissons les distributeurs, laissons les producteurs avancer, faire la vie. Moi, je suis assez étonné d'une chose. Vous dites que vous avez fait un débat avec les représentants des candidats, mais est-ce qu'il y a eu un moment où, alors, est-ce qu'il y en a jamais eu d'ailleurs, hein, au fond, je parle aussi sous votre contrôle, Stéphane Capron, des grands messes culturelles au cours des campagnes précédentes. Je vois Michel Halberstadt qui fait non avec la tête. Au fond, est-ce que ça s'est déjà produit? En fait, on s'étonne, mais est-ce qu'on s'étonne
à
pas très
naïvement?
À chaque
élection présidentielle, on se pose la même question. Exactement. Où est la culture dans le débat?
Sauf que le contexte est rarement aussi
sauf que là, il y a des crises.
Aussi, voilà, aussi raide que celui-là, avec deux crises coup sur coup. En fait, une crise de Covid et une crise de pouvoir d'achat.
Et comme vous dites, il y a cette espèce de vitre blindée qui sépare les artistes des politiques. Il n'y a absolument aucun artiste qui ne parle politique et qui ne soutienne un mouvement politique.
Alors les artistes ne s'engagent plus.
On va y aller dans une seconde sur ce sujet. Juste là-dessus, Nicolas Dubourg, ce qu'on disait à l'instant, est-ce que vous les avez vus quelque part? Est-ce qu'il y a eu une forme de grand-messe? Est-ce que ou vraiment rien de tout ça? Ou est-ce que même pour avoir des représentants, vous ramez, vous?
Ben oui, c'est assez déplorable, mais non, il n'y a pas eu de grand-messe. Et on voit qu'aujourd'hui se tenait le congrès de la FNSEA, hein, où tous les candidats ou presque se sont rendus. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que la culture en France, c'est 3,5% du PIB, autant que le secteur agricole, et c'est 700 000 actifs, soit à peu près autant aussi que le secteur agricole. Donc c'est pour rappeler aussi des données comme ça, hein. On a souvent comparé ce secteur-là avec le secteur de l'automobile, etc. Mais les candidats semblent complètement, je dirais, sourds à cette réalité. Et pire encore, ils sont incapables de se l'approprier pour essayer de raconter quelque chose. On a eu des thèmes qui ont été rebattus. Moi, j'entends que l'inflation, etc., sont évidemment des préoccupations premières aujourd'hui. Mais savoir dans quel monde on se dessine quand on voit l'Europe qui est en train de se déliter, quand on voit des problématiques, je pense au réchauffement climatique, qui sont des sources d'angoisse énormes pour la jeunesse, comment ne pas se saisir de l'enjeu culturel pour essayer de raconter une histoire qui soit un peu positive et qui rassemble l'ensemble de la nation.
Et c'est quand même fou, Jérôme Tréorel, parce que vous, dans votre festival qui rassemble beaucoup de gens, on se dit, au fond, la culture, politiquement, c'est pas vendeur. Parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. Si c'était vendeur, vous pensez bien que vous les verriez tous arriver. Comment se fait-il que la culture n'est pas vendeuse politiquement, à votre avis ?
Je pense que depuis un moment, comme je disais tout à l'heure, en début des années 2000, l'État s'est désengagé dans le secteur de la culture et du live sur ses soutiens, et on a une parfaite méconnaissance du fonctionnement. Il y a, alors malheureusement, j'ai envie de dire, je vais un peu choquer en le disant, mais grâce à la crise sanitaire, on a pu enfin discuter avec les responsables de l'État, du gouvernement, du ministère et même en région de l'importance des festivals, de ce que ça pesait en termes économiques sur les territoires sociaux et culturels, et l'impact a été enfin compris. Pour l'exemple des Vieilles Charrues, c'est un budget de 17 millions d'euros pour une association sans subvention. C'est 2500 emplois qui sont générés du fait de la tenue du festival. Mais ça, ils n'en avaient pas du tout connaissance. Et je pense que depuis le début de la campagne, c'est un sujet qui n'est pas vendeur, qui n'est pas polémique. Et on n'a pas de place. On n'avait pas de place du tout.
Voilà, si vous ne faites pas de polémique, vous n'avez pas de place, Michel Berchtat.
Mais regardez, l'éducation, c'est quand même un sujet hautement vendeur, il me semble, en période électorale. Et ben, on pourrait parler du cinéma et de la culture et de la manière dont il faut l'intégrer à l'éducation. Le cinéma va mourir si on n'apprend pas aux gens dès l'école ce que c'est que le cinéma, ce que c'est que les grands maîtres. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faudrait enseigner à l'école et qu'on n'enseigne pas.
Il y a Stéphane Capron, Michel le disait à l'instant, et c'est vrai que c'est très étonnant jusqu'à quel point il y a personne culturellement dans cette campagne. Mais vous savez quoi, j'ai envie de vous poser la question à l'envers. Parce que c'est pas seulement ceux qui soutiennent, mais c'est aussi ceux qui vont chercher les politiques. Or, les artistes, ils vont pas les chercher, pardon de porter mon âge, mais il y a 25 ans, quand il y a un Balavoine en face d'un François Mitterrand, derrière, ça bouge parce que ça dépote. Ça n'existe plus non plus. Ça marche aussi dans ce sens-là, en fait. Hein.
Parce que les artistes aussi, ils ont peur de s'engager, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tout est scruté aussi par les réseaux sociaux. Les fans des artistes, et dès qu'ils s'affichent et dès qu'ils prennent position, eh ben ça monte sur les réseaux sociaux, et ils ont peur en fait pour leur carrière. Alors peut-être pas les artistes qui sont plutôt âgés, mais les jeunes artistes,
même les âgés, pardon,
les installés qui ne risquent rien, ils pourraient y aller, ils n'ont pas.
Ils ont peur de ce qui va gonfler, ils ont peur pour leur carrière.
Parce que c'est ça, honnêtement, Michel Berchtat, c'est dans ce sens-là que ça doit se passer.
Évidemment. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas un JT aujourd'hui qui invite, je sais pas moi, Alain Souchon avec un homme politique, ou même dans toutes les émissions politiques qu'il y a, pourquoi il n'y a jamais un artiste qui est invité autour de la table pour interroger un politique?
Et
jamais.
Et dans les années 80-90, les chauffeurs de salle dans les meetings, c'était des artistes. Mm-hmm. Ah, c'était un Enrico Macias à droite, absolument. C'était un Charles Trenet à gauche du temps de 80 avec Mitterrand. Ouais. C'était les chauffeurs de salle.
Ouais, alors on a bien vu ce que c'est de chauffer une salle récemment dans un meeting, et ça s'est plutôt mal passé pour l'humoriste dont c'était le métier. Jérôme Tréorel, vous qui les voyez, les artistes, vous qui les invitez chez vous et qui les avez au festival, est-ce que vous les trouvez désengagés, plus frileux, ou est-ce que c'est tout simplement que tout ça est trop néfaste et trop casse-gueule aujourd'hui pour un artiste, en fait?
Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus prudents. On a vu, vous parliez tout à l'heure de 2007, où il y avait énormément d'artistes. Certains ont...
Il y en a, oui, qui l'ont payé derrière.
Durement payé leur engagement, et on les a pas beaucoup revus sur scène après, soit sur des tournées ou sur des festivals. Donc je pense qu'ils sont très prudents. Et d'ailleurs, même pendant la crise sanitaire, où là, pour le coup, il y a eu un vrai mouvement de solidarité. Alors je parle pour le secteur là des concerts, des festivals, des tournées, avec vraiment l'ensemble des acteurs, qu'ils soient associatifs ou privés. On n'a pas vu beaucoup d'artistes parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les réseaux sociaux, il y a l'impact derrière. Ça nous aurait beaucoup aidé. On aurait été, je pense, beaucoup plus vite au moment de la crise sanitaire de faire comprendre l'impact. Monsieur le rappelait tout à l'heure, l'impact au niveau national, au niveau économique, le poids du secteur de la culture. Ça n'a pas été le cas. On a ramé un peu plus, mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris la leçon, et malheureusement, l'engagement est beaucoup moins important de leur part.
Christelle est avec nous. Bonsoir, Christelle.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Ah, mais totalement. Je vous entends très bien. Ouais, ouais, allez-y.
Très bien. Mais écoutez, moi, quand je pense à culture, je pense à la fête. Je pense à la culture de rue. Je pense à la danse. Et je pense à l'Allemagne. Je voulais savoir si des pays comme l'Allemagne, par exemple, avaient repris, si en Allemagne la culture a repris, parce que la culture de la fête en Allemagne est un petit peu différente, enfin d'après ce que je crois savoir. Et voilà, je voulais savoir si, c'est une question de choix aussi, de mettre en avant la fête, le rapport à l'autre, parce que la culture, en fait, c'est ça. C'est pas être dans son canapé à regarder Netflix, par exemple, c'est aller se confronter à l'autre, soit dans une salle de cinéma, soit au théâtre, soit en dansant, soit en applaudissant dans la rue, etc. Et il y a une phrase qui m'a énormément choquée pendant la crise du Covid, c'est « la bamboche, c'est terminé ». Et pour moi, la culture, voilà, c'est aussi la fête, et je voulais savoir s'il n'y avait pas un rapport, et si Voilà, en Allemagne, notamment en Allemagne, mais peut-être dans d'autres pays, ça a repris. Et pourquoi ça a repris peut-être mieux que chez nous?
Je ne sais pas qui je vais piéger en allant poser la question sur l'Allemagne, parce que je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre. Mais Nicolas Dubourg, je ne veux certainement pas vous piéger. Je me demandais si vous discutiez parfois avec vos collègues extérieurs. Est-ce que c'est tout aussi compliqué chez les voisins? Est-ce que vous le savez, ça? Et tout aussi absent des campagnes ou pas?
Oui, on a eu quand même des discussions avec les collègues des pays européens.
Vous venez de sauver la vie de tous les gens autour de cette table, je vous le dis.
Ouais, au cinéma, on est mieux que...
Merci, j'espère. On a eu des contacts. Alors, ça a été géré de manière très différente. La France a eu un soutien économique qui a été très fort envers le secteur. Mais en revanche, elle a aussi fermé de manière assez violente et assez rapide la plupart des établissements. Et si vous regardez, par exemple, au sud, en Espagne par exemple, les cinémas sont restés ouverts, c'est-à-dire il y avait des jauges, il fallait respecter des gestes barrières, etc. Mais tout est resté ouvert et c'était coordonné au reste de l'économie. Et en Allemagne, alors il y a eu un début qui était un petit peu plus lâche que chez nous. Et puis, très rapidement, ils sont arrivés sur la première contrainte qui était le pass, le masque, etc. Et puis, de rentrer comme ça dans des contraintes qui étaient de plus en plus difficiles. Et ce qu'on observe par rapport au public qui a été rappelé sur le changement des pratiques, c'est que même aujourd'hui, que les salles sont réouvertes, qu'on peut y venir en étant sans le pass sanitaire, sans masque, etc., il y a encore des gens qui pensent qu'il existe des jauges et que, un peu comme quand on prend le train, il va falloir se soumettre à un certain nombre de règles. Donc ça veut bien dire qu'on a associé nos lieux à cette difficulté maximale, là où d'autres secteurs de l'économie sont restés accessibles à tout le monde. Donc je ne crois pas que l'Allemagne ou d'autres pays soient beaucoup plus exemplaires, mais si je prends le cas de l'Espagne typiquement, la pratique des spectateurs en Espagne n'a pas été cassée, contrairement à ce qui s'est passé en France.
Et alors c'est intéressant ce que dit Nicolas Dubourg, Jérôme Tréorel, parce que vous, qui aviez expérimenté passe sanitaire, masque, etc., vous saviez que ça allait marcher, donc de toute façon vous vous êtes mis en condition de s'il faut le refaire de la même manière, on peut le refaire de la même manière en fait. Donc vous vous êtes vous aussi au fond conditionné sur l'idée que peut-être qu'il faudrait vivre un nouveau festival dans des conditions contraintes.
Alors oui, en partie. On a été bloqués, stoppés net tous en 2020. L'urgence, c'était de sauver non pas une édition, mais sauver la structure, sauver les emplois et tout ce que ça générait autour. La deuxième année, avec l'expérience, même s'il y avait encore beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inconnus, l'idée, c'était de trouver des solutions pour exister à nouveau, peut-être différemment, mais exister. C'est l'engagement, nous, qu'on a essayé d'avoir en interne dès la rentrée 2020. La vaccination a permis d'envisager des choses différentes, mais je vous rappelle qu'au mois de février 2021, on avait un premier cadre, qui est un cadre très, très restreint, mais qui nous donnait un point de départ avec des engagements de pouvoir réévaluer les choses. Donc nous, on s'est battu dans ce sens-là, en essayant d'apporter aussi des solutions et des propositions en termes d'accueil du public pour le faire de manière sécurisée. Mais on voulait absolument ne rien lâcher, justement pour relancer aussi à notre petite mesure le secteur, faire tourner les artistes, retrouver le public, les bénévoles, les équipes, les intermittents. Mais grâce à cette expérience qui a été très compliqué, et puis encore une fois avec plein d'incertitudes, on a réussi à mettre en place ce festival et à tester dans les premiers, comme d'autres événements début juillet, ce pass sanitaire. À partir du moment où on l'a fait pour la rentrée suivante en septembre dernier, on s'est dit à partir du moment où il y a ce pass-là, qui n'est pas forcément la meilleure solution, mais qui est un outil qui nous permet de ne plus être interdit. Et c'est à partir de ce moment-là, on s'est dit que les choses devenaient possibles, la vaccination s'accélère, etc. Et qu'on a tout de suite positionné le festival, comme beaucoup d'autres, sur une jauge, comme avant la crise, en se disant, au pire, il y aura ce pass, mais on a appris de cette expérience pour améliorer l'accueil du public, améliorer cet accueil. On l'a fait au niveau sécurité après les attentats. Là, on l'a fait au niveau sanitaire, suite à la crise du Covid. Et bien maintenant, trouvons et apportons des solutions sans subir, pour pouvoir jouer et revivre les expériences et ces moments de partage comme on le faisait avant.
Alors, mais Nicolas Dubourg, du coup, qu'est-ce qu'on dit à un prochain ministre de la Culture, quel qu'il soit, vers quoi on lui demande d'appuyer, et surtout on lui dit, puisqu'on va traverser là, au démarrage de ce prochain quinquennat, on va de toute façon démarrer sur des problématiques de pouvoir d'achat, des problématiques énergiques qui vont être importantes, on n'est pas au bout de cette histoire-là, loin s'en faut. Est-ce qu'on dit, il faut exactement comme on fait un chèque énergie, il faut instaurer quelque chose de similaire pour que précisément dans les problèmes de pouvoir d'achat, la culture ne soit pas la cinquième roue du carrosse. Est-ce qu'il y a des propositions de votre part, vous au sens large bien sûr, qui vont dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'on lui dit au prochain ou à la prochaine?
Ben nous, on dit déjà d'arrêter de casser tout ce qui a été construit, hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir stoppé les financements, la croissance des financements, alors que l'inflation, alors que tout un tas de paramètres augmentent, et d'avoir empêché aussi les collectivités territoriales, puisque toutes les réformes successives, hein, qui touchent les finances des collectivités territoriales baissent leur capacité à agir, notamment dans le domaine culturel. Donc nous, ce qu'on dit au ministre de la Culture, c'est de la même manière qu'il faut arrêter de casser le service public de la santé et des hôpitaux, de la même manière qu'il faut soutenir l'école et l'université, on lui dit il faut à tout prix relancer une dynamique dans le domaine de la politique culturelle et donc la financer. Alors après, bien sûr, il va y avoir la question du déficit, de la dette, etc. Mais moi, je pense que quand on veut des services publics forts, il faut se donner les moyens de les financer, et donc ça posera la question des ressources. Mais précisément, ça donnera des arguments à ce ministre de la Culture pour aller voir son collègue à Bercy. Et c'est la raison pour laquelle on veut que ce ministre de la Culture, on a eu 3 ministres de la Culture durant le quinquennat actuel, on en avait eu 3 sous le quinquennat précédent, donc on en a assez, hein, de cette valse des ministres. On a besoin d'un ministre de la Culture ou d'une ministre de la Culture qui soit forte, un ministre d'État par exemple, et qui puisse avoir capacité à s'inscrire dans un dialogue interministériel en étant stratège et en étant organisateur de toute cette dynamique-là.
Qu'est-ce qu'on lui dit, Michel Halberstadt? Non, je vous vois faire... je veux pas vous emmener dans le mur, vous non plus, pauvrette.
Non, mais si ce ministre existe, on aimerait le voir. Bah, écoutez, on l'attend.
Vous finirez par en voir un, mais on verra bien lequel, d'ailleurs. Mais
Non, mais par rapport à l'Allemagne, en tout cas, je voulais dire que, bizarrement...
Vous voyez même...
Et à l'Espagne, on est quand même, malgré nos moins 40%, le pays qui résiste le mieux au niveau cinéma, au niveau entrée cinéma. Donc on est quand même un pays
dire de cinéphiles. C'est dire l'état
dans
lequel sont
les autres pays, c'est épouvantable. Ouais, absolument.
Alors je n'ai pas ce chiffre, c'est vous que je vais piéger,
cette fois,
Stéphane Capron. Je n'ai pas ce chiffre dans le plan de relance européen, par exemple. Y a-t-il une... On la connaît, la part culture, ou pas?
Dans le plan de relance français?
Ouais, européen. Non, le grand plan de relance européen qui est partagé avec tout le monde. Voilà, moi non plus. Donc je vous ai piégé, mais je me suis auto-piégé de la même manière. Hop, allez, sous le tapis. Bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Et pendant ce temps, de l'autre côté de la vitre, on était tous en train de chercher comme des fous. On vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Alors moi, je voulais dire que, au contraire, je suis peut-être une espèce en voie de disparition, mais voilà, je vais beaucoup au cinéma. Alors j'ai la chance de vivre à Paris, de profiter, d'avoir un pass. Donc en 2 séances, j'ai rentabilisé l'abonnement à mon pass. Je suis dans un quartier où il y a un cinéma fait par des réalisateurs, où il y a pas mal de débats avec des rencontres des réalisateurs. Donc je trouve qu'il y a... Alors quand j'entends dire qu'il n'y a pas, de blockbuster, il n'y a pas beaucoup de choix, moi je trouve qu'il y a un choix formidable. Et puis j'ai repris aussi le chemin du théâtre. Alors le cinéma, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté. Le théâtre, ça faisait des années, et là j'ai repris plaisir. Et moi, pendant cette pandémie et puis la guerre en Ukraine, ça me détend. Ça me permet de penser à autre chose. Je suis beaucoup l'actualité, les informations et tout. Donc à un moment donné, j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Et voilà. Par contre, j'ai juste un petit reproche quand même pour le théâtre privé. Je trouve que c'est pas la portée de tout le monde quand parfois il y a certaines places première catégorie à 60 et quelques euros. Je trouve que c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a plein de choses à voir. Il y a de très jolies expos. Il y a des choses à faire. Voilà.
Alors, c'est pas vers Nicolas Dubourg que je vais me tourner, mais pour le théâtre privé, c'est vers vous que
non, mais effectivement, les places sont très très chères, et le secteur privé dans le théâtre est celui qui souffre beaucoup plus que le secteur secteur public parce que le secteur public, bien, il est subventionné, comme son nom l'indique. Et c'est vrai que les théâtres privés sont chers, 50, 60 euros, très peu de réductions, pas de possibilité d'acheter des cartes d'abonnement. Il n'y a même pas de réseau dans les théâtres parisiens, les théâtres privés parisiens. Il n'y a même pas de réseau. On ne peut même pas acheter une carte qui permettrait d'avoir des réductions d'un théâtre à l'autre. Il n'y a pas d'organisation. Et c'est vrai que pour le consommateur, pour le spectateur, c'est vraiment très 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 compliqué.
Et ça aussi, Nicolas Dubourg, c'est peut-être ce qui est oublié également, parce que notre auditrice le reconnaît, à la vie de Paris, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples quand on habite les grandes villes que quand on est obligé d'aller la chercher, la culture qui a du mal à venir jusqu'aux gens. Elle essaye, dans le meilleur des cas, de faire son maximum, mais c'est pas toujours simple. Et c'est ça aussi qui fait l'énorme différence, qui fait aussi, encore une fois, l'énorme différence en termes de pouvoir d'achat pour les gens qui se déplacent.
Ah ben ça, c'est vraiment un des paramètres qui a été démontré par la crise, hein. C'est que on se vante d'un aménagement du territoire culturel qui a évidemment progressé depuis les années 50, mais il y a une reconfiguration urbaine, notamment l'explosion autour des métropoles, des banlieues, etc. Et c'est pas que Paris. Et aujourd'hui, quand vous voyez le prix d'un litre d'essence pour vous rendre au travail, eh ben il y a beaucoup de personnes qui se disent non, je vais pas ressortir le soir, les transports c'est trop long et je vais pas, et voilà. Et comme les équipements culturels sont en général concentrés au centre des villes, eh bien, il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui, relégués de plus en plus loin parce que les loyers sont explosifs, ne peuvent plus bénéficier de ces services publics qu'on avait pourtant imaginés pour le plus grand nombre. Donc c'est vraiment ça aussi des choses qu'il faut repenser. La question des tarifs, bien sûr, les places, c'est important, mais la question de l'accessibilité, c'est aussi la question de la proximité. Mmh. Et ça, eh bien, il y a beaucoup de travail à reprendre pour rendre ces lieux, ces musées, ces bibliothèques au plus proche et à tout le monde.
Voilà, et merci Amélie de l'autre côté de la ville qui me dit que 2% du plan de relance doit être normalement consacré à la culture de ce fameux grand plan de relance. Sur l'appli France Inter, Sylvain, qui va dans votre sens, Michel Alberstadt, et qui dit la culture numérique se porte très bien avec les plateformes de streaming, avec tout ça, c'est la culture des salles de ciné qui va mal parce que cette concurrence, évidemment, est bien moins chère. Et en même temps, on se dit que quelles sont vos armes, vous, pour lutter contre ça ?
La diversité de l'offre. Si vous voyez en ce moment, vous ouvrez un programme, vous allez sur un site de programme et vous voyez ce qui joue, vous pouvez tout voir à Paris. Alors, je dis bien Paris, la plupart des grandes villes aussi, mais c'est vrai qu'il y a un choix incroyable du blockbuster américain, du film de grand spectacle français, des films d'auteurs tout public comme un Clapiche, de films d'auteurs plus pointus. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a une diversité folle. Et des choses que vous avez jamais vues qui vont vous ouvrir l'esprit et des choses, des gens que vous connaissez, que vous avez envie de revoir. Il y a absolument tous les genres, tous les styles, tous les cinémas qui sont disponibles à Paris. Il n'y a pas une ville comme Paris au monde.
Mmh. Est-ce que Stéphane Capron, et ce sera la conclusion, est-ce qu'il est prévu quand même, il reste une dizaine de jours avant le premier tour, est-ce qu'il est prévu un rendez-vous culture, des prises de parole culture, enfin quelque chose de cet ordre-là?
Non, à part les questions que nous, les journalistes, pouvons poser directement aux candidats quand ils sont invités dans des émissions, à la radio ou à la télévision, il n'y a pas de grande messe culturelle prévue d'ici le premier tour.
Et on va presque dire aussi que parfois les torts sont partagés parce que ces questions...
Elles sont quelquefois pas forcément posées dans les débats.
Exactement, c'est donc chacun balayant devant sa propre porte. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre participation, merci pour vos appels comme d'habitude, et je remercie Amélie Stadelman et Nathalie Poitvin pour cette jolie semaine à la programmation dans le 18-20. Merci à Tristan Gratalon qui est à la réalisation, à Marie-Claude Pinson à la rédaction en chef, à Magda Hervada pour le site et pour la doc. À la technique ce soir, il y avait Céline Guéribi, Céline et Michel Bézikian.